Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale. La première réunion de femmes ministres des Affaires étrangères va se tenir aujourd'hui en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça va se passer à Montréal. Elles sont aujourd'hui une trentaine à occuper ce poste dans leur pays et semblent proposer des approches différentes dans la manière d'aborder les problèmes internationaux. Les femmes diplomates à l'initiative de cette rencontre affirment que la promotion de l'égalité des genres est essentielle pour la prospérité, la paix et la sécurité du monde. Alors, les femmes changent-elles les codes de la diplomatie ? On va en parler avec deux invités ce soir que je vous présente tout de suite. Agnès von der Mühl est diplomate. Vous êtes porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous êtes directrice de la presse et de la communication dans ce même ministère. Bonsoir à vous.
Bonsoir, merci de nous avoir invités.
Je vous en prie, c'est notre plaisir. Et Fatima El-Ouazdi est la présidente fondatrice de l'association Politique. C'est une association qui œuvre à la promotion des femmes dans la société et lutte contre le sexisme. Bonsoir à vous, Fatima El-Ouazdi.
Bonsoir, François.
Alors, la réunion que j'évoquais en introduction à cette conversation est à l'initiative de Chrystia Freeland, qui est la ministre des Affaires étrangères du Canada, et de son homologue de l'Union européenne, Frédérica Mogherini. Je m'adresse à vous tout d'abord, Agnès von der Mühl. Qu'est-ce qui, d'après vous, a poussé ces deux femmes diplomates à lancer cette invitation, une réunion entre soi, entre elles, on va dire? Pourquoi?
Probablement pour se compter, espérer être davantage les années futures. Il y a des femmes chez nous qui sont ministres et elles s'occupent activement de politique, sinon étrangère, du moins européenne. La politique européenne est un peu à cheval entre la politique intérieure et la politique étrangère, mais nous avons l'honneur d'avoir Nathalie Loiseau, qui est à la fois une diplomate, une collègue et une ministre active sur le plan européen. Le Times lui a consacré un article récemment, d'ailleurs, en la qualifiant d'arme secrète du président Macron. Je ne crois pas que Nathalie soit une arme, mais c'est un atout charme, en tout cas.
Elle sera à la réunion de cet après-midi ?
Je ne crois pas, parce que je crois que ses obligations européennes, en tout cas, l'en empêcheraient, puisqu'il y a des consultations citoyennes sur l'Europe, et qu'elle est très active, en fait, dans ces consultations pour expliquer et débattre avec nos concitoyens et nos concitoyennes, donc, de ces questions importantes pour notre avenir.
Est-ce qu'il y aura des représentants français ?
Pas que je sache.
Bon. Est-ce que la présence d'hommes, Fatima El-Ouazdi, est-ce que la présence d'hommes changerait la teneur des propos qui vont se tenir, d'après vous ?
Je l'ignore, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a toujours interrogée, c'est que quand il n'y a que des femmes qui se réunissent, on fait du bruit, on en fait un mini buzz et on s'y intéresse, mais en réalité dans les sphères de pouvoir, des hommes qui ne se réunissent qu'entre eux, ça arrive tous les jours. Ce n'est même plus c'est quotidien, ça
veut dire
que
parce
qu'ils sont majoritaires dans les sphères de pouvoir, c'est-à-dire que oui, il y a davantage de femmes dans les métiers de la diplomatie, dans les métiers politiques à l'Assemblée nationale par exemple, dans les sphères de pouvoir, même dans les entreprises par ailleurs, dans les conseils d'administration, il y a une obligation de parité à 40%. Cependant, c'est vrai que dès qu'il y a un événement que de non-mixité entre femmes parce qu'elles ont envie de revendiquer quelque chose, c'est forcément un gros événement. Et c'est important de le dire, je pense que c'est important de le souligner, c'est important de les organiser parce qu'il faut aussi donner la parole à ces femmes-là et qu'elles puissent s'exprimer entre elles. Je pense qu'une réunion où il y a des hommes, les hommes ont tendance aussi à accaparer beaucoup plus la parole et à monopoliser la parole dans le sens où ils vont souvent beaucoup parler pour dire très peu de choses, vous voyez ce que je veux dire, alors que les femmes vont souvent s'auto-censurer dans la prise de parole en réunion publique, en présence d'hommes. Donc ça a été prouvé par mon expérience politique personnelle, mais surtout du fait, j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai parlé à beaucoup de femmes politiques, de femmes diplomates, et c'est vrai que c'est des choses qu'on voit assez souvent dans la vie, dans les postes, les réunions à un peu à responsabilité, puisque oui, les hommes monopolisent la parole. Et ça, c'est problématique. Donc, cette théorie un peu de la non-mixité, parfois, ça peut faire émerger des idées qui sont différentes, ça, c'est sûr et certain.
Non, parce qu'on peut se poser la question, je ne sais pas si elle est légitime d'ailleurs, de savoir si la présence d'hommes dans des assemblées féminines modifie les comportements des femmes.
En ce qui me concerne, si je parle de mon expérience personnelle, pas tellement, mais on est aussi un ministère qui est très ouvert sur la diversité en général. On est attaché de plus en plus à faire en sorte que le ministère et la diplomatie, les diplomates, soient le reflet, le miroir de notre société. Donc on parle aujourd'hui l'égalité homme-femme, et c'est un sujet important. Il y a d'autres sujets aussi, si on parle de la diplomatie comme miroir de la société. Mmh. On est très ouvert sur le recrutement aussi des personnes en situation de handicap. On est très ouvert aussi à la diversité sociale. Mmh. Évidemment, les concours sont à la fois un gage républicain de promotion égalitaire, mais on sait aussi qu'il y a parfois quelques barrières de verre. Et là, évidemment, c'est toute la mission d'une société entière, de nos professeurs, pour pousser, comme ils ont d'ailleurs, et elles ont souvent poussé les jeunes femmes à oser. Je pense en particulier à la première femme diplomate, Suzanne Borel, qui a ouvert bien des portes, qui était très 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 fermée et cadenassée. Aujourd'hui, la situation a bien changé. En tout cas, pour revenir à votre question initiale, ça ne change absolument pas ma façon d'intervenir. Je suis pas quelqu'un de timide par nature.
Alors, je reviens sur votre expérience personnelle, puisque vous l'évoquiez à l'instant. Femme de diplomate dans un monde traditionnellement masculin, est-ce que ça pose des problèmes particuliers, et lesquels éventuellement ?
Alors moi, je suis rentrée il y a déjà un peu de temps, puisque c'était en 1992 au ministère des Affaires étrangères. Mais déjà à l'époque, notre promotion était assez équilibrée. Donc moi, je n'ai jamais rencontré d'obstacle particulier, ni d'hostilité, ni de mépris vis-à-vis de moi ou de mes collègues féminines par des collègues masculins qui étaient quand même naturellement ouverts à cette mixité. On l'a tous vécu quand on était petit à l'école aussi. Ça change aussi peut-être la donne et les mentalités. Évidemment, quand on progresse et qu'on vise et on ambitionne des postes plus compétitifs, la compétition peut jouer. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles l'association Femmes et Diplomatie s'est créée au sein de notre ministère, parce qu'on se rendait compte que il y avait un peu d'entre-soi ou d'entre eux.
Parmi les hommes, vous voulez dire.
Absolument.
Alors, Fatima Louazdi, on parle de capacité de négociation, de changement de code dans la diplomatie. Quelles seraient, d'après vous, les spécificités des femmes en matière de négociation, peut-être, de manière plus générale ?
Vous savez, il y a deux écoles un peu dans le féminisme. Il y a l'école qui dit non, les femmes, ce sont des hommes.
Comme les autres.
Voilà, comme les autres. Et de fait, il n'y a pas de spécificité et qu'elles ont à peu près les mêmes façons de faire. L'autre école dit exactement le contraire. Oui, il y a des codes féminins de par la socialisation différenciée genrée que les filles et les garçons ont, et que ça apporte une négociation plus douce, plus soft. Enfin voilà, c'est des clichés.
Hein.
Je ne savais pas du tout dire que c'est ce que je pense. Moi, je pense que les femmes font de la politique ou de la diplomatie comme les autres. Cependant, c'est vrai que il y a des études qui prouvent que dans un management un peu plus mixte, il y a de meilleures performances dans les entreprises. Donc je pense aussi que la mixité apporte peut-être un regard différent, un regard moins axé sur tout ce qui est phallique finalement. Voilà, c'est qui est la plus grosse, qui va en faire le plus pour parvenir à ses fins, et parfois en perdant un peu l'objectif du bien-être, un peu cette idée de responsabilité sociale envers tout, donc sociale dans le sens société, cette responsabilité envers la société. Et donc, moi, je pense que oui, les femmes ont peut-être une façon différente de faire, de par cette différenciation dans la sociabilisation très petite. Mais je pense aussi que les femmes sont aussi des hommes politiques comme les autres, parce qu'elles ont autant d'ambition que les hommes. Mais il faut juste que, voilà, on lève l'effet d'autocensure auprès de celles qui ont ce besoin-là, notamment.
Alors, quel serait, Agnès Van Der Mulle, vous, comment vous voyez l'approche des problèmes ? Est-ce qu'elle est différente de la part des femmes ?
Moi, j'ai une conception du féminisme telle que je la vis au quotidien, comme le féminisme, effectivement, est l'égal de l'homme. Et donc, ce qu'il faut assurer, c'est la mixité, la parité, l'égalité homme-femme. Chaque femme et chaque homme, chaque être humain a sa propre personnalité. Il y a des femmes qui sont assez dures dans la gestion d'équipe. Il y en a qui, au contraire, pour avoir surmonté ces difficultés, estime qu'il est très important d'abord pour le bien-être de soi et de ses collaborateurs et de ses collaboratrices d'avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il se trouve aussi que c'est la politique de notre ministère depuis un certain nombre d'années. C'est très important pour les diplomates qui se déplacent avec leur famille à l'étranger. Donc c'est non seulement en fait pour le ou la diplomate, mais aussi pour le compagnon, la compagne, le conjoint, le mari, l'épouse, que c'est important. Les épouses de nos collègues diplomates masculins ont aussi des carrières à gérer. Mmh. Donc c'est vraiment un élément très important pour nous.
Oui, parce que avant qu'il y ait des femmes diplomates, il y avait des femmes de diplomates. Mmh. Hein, on en parle beaucoup. Les épouses de ces ambassadeurs dont on dit qu'elles peuvent jouer d'ailleurs un rôle très important dans la mission de leur mari.
C'est très vrai. Je crois qu'on n'a peut-être pas assez rendu hommage aussi à ces femmes-là qui ont souvent accompagné leur mari. Alors il y a une mauvaise blague qui circulait il y a quelques années où on disait parfois que la première femme fait la carrière du mari et la carrière du mari fait la seconde femme.
D'accord, c'était
c'est,
là.
C'est joli.
C'est révolu, j'espère.
Alors, est-ce que femme de diplomate, c'est aussi un métier, Fatima Louazdi?
Quand on voit aujourd'hui les femmes de diplomates, finalement, les plus célèbres, c'est les femmes des présidents de la République ou des premiers ministres, les compagnes et les épouses. Et je pense, oui, quand on voit qu'au G7, on a les femmes des présidents de la République ou des premiers ministres de ces grandes nations qui se réunissent entre elles, c'est un travail aussi très concret. Hein. Faut savoir que, par exemple, nous, en France, Brigitte Macron, elle a un cabinet qui coûte de l'argent aux contribuables, mais qui effectue un travail sur des thèmes qu'elle choisit de mettre en lumière, et qu'elle fait de la diplomatie aussi quand elle va à l'étranger, quand elle accueille Melania Trump aux côtés du président et de Donald Trump. Donc oui, je pense que il faut pas négliger parce que c'est la femme d'eux. Je pense que c'est important aussi de valoriser ces personnes-là qui ont un travail finalement à part entière, hein, puisque je pense que c'est pas évident d'être dans l'ombre d'un homme qui a un pouvoir ou qui représente la France, par exemple. C'est pour ça qu'il faut valoriser ces personnes-là. C'est pour ça que j'ai soutenu la charte de la première dame, puisque pour moi c'était important que Brigitte Macron puisse avoir pas vraiment un statut, puisque c'était pas un statut, mais juste des règles, des principes qui fassent qu'on puisse mettre en fait son travail en lumière. Je pense que il y a beaucoup de féministes qui sont là. Non, mais faut arrêter de dire que la femme d'eux c'est la dégradée que de dire ça, mais je trouve que ce n'est pas vrai. Je pense que c'est mieux de valoriser ces personnes-là qui font un travail formidable, qui n'ont pas forcément la lumière, que ce soit les femmes de diplomates à l'étranger ou même les compagnons. Maintenant, je pense qu'il y a des femmes de diplomates.
J'allais dire.
Voilà, il y a aussi des compagnons. Voilà, de favoriser un peu la mobilité de ces personnes-là, de leur trouver un travail quand elles déménagent. Je pense que c'est des choses qu'il faut mettre en place, ne serait-ce que pour favoriser aussi la mixité dans les carrières au ministère des Affaires étrangères et de l'Europe.
D'ailleurs, le ministère favorise, si j'ai bien lu la documentation qu'on m'a fournie, l'accès au travail des époux, des épouses, des ambassadeurs qu'elle envoie dans les différents pays.
Et des diplomates et de nos collègues, quelle que soit d'ailleurs leur responsabilité en général. Oui, c'est très très important, précisément dans un objectif de conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Il y a de plus en plus d'accords avec un certain nombre de pays, parce que c'est fondamental. Évidemment, lorsqu'on part à l'étranger, on est souvent, on a un statut ou diplomatique ou consulaire avec des immunités qui sont attachées. Dans certains pays, il est important de conserver des immunités pénales, en fait, pour ne pas être soumis au cas où il arriverait quoi que ce soit, par exemple, à la peine de mort. Mais il est aussi très important de concilier ces immunités que l'on garde pénales avec un travail. Et du coup, on arrive à des arrangements qui visent, en fait, à circonscrire ses immunités et permettre une vie professionnelle où là la personne en fait agit comme tout un chacun.
Alors je disais qu'elles sont une trentaine dans le monde aujourd'hui à occuper le poste de ministre des Affaires étrangères, qui est poste suprême dans la diplomatie des pays. On est loin de la parité. Alors j'ai des chiffres là. Le nombre de femmes qui occupaient les postes d'ambassadeurs en France a augmenté lentement. Il y a 3 femmes ambassadrices en 1982. Il y en a 16 en 2002 et on en compte aujourd'hui 49, donc sur un total de 197 en février 2017. On est loin de la parité. Et la question que je me pose, c'est où en est-on de la diversité, Fatima Louazdi?
Alors, encore une fois, je pense qu'il y a une mixité, ça a été dit tout à l'heure, dans la sélection, dans les concours. Quand on forme au MAE, il y a quasiment autant de femmes que d'hommes qui réussissent le concours et qui rentrent au Quai d'Orsay. Cependant, dans toutes les sphères. Encore une fois, c'est pas justement qu'au MAE, mais quand ce sont des postes à responsabilité où il y a de la cooptation, parce que quand on est nommé ambassadeur, c'est, je pense, hein, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est par cooptation, c'est par arrêté, c'est parce que
c'est un décret du
président de la République, voilà, c'est par décret. Excusez-moi, je suis pas fan de droit administratif, mais en grosso modo, ce que j'essaie de dire, c'est que quand c'est tout un jeu de réseau autour, parallèle, où les femmes n'ont pas forcément accès, où c'est encore des clubs masculins de pouvoir, forcément, il y aura toujours un peu un plafond de verre encore à briser sur le nombre de femmes ambassadrices à l'étranger.
Ouais. Il existe ce plafond de verre où il y a commence à y avoir des femmes
justement,
qui sont
ambassadeurs à l'étranger. Justement, je voudrais quand même insister sur le mouvement, qu'il y ait encore du chemin à faire, incontestablement, et on le fera et on poussera volontiers pour cela. D'abord, il faut quand même rappeler que le président de la République a placé l'égalité homme-femme comme cause de son quinquennat. Donc on a quand même un président féministe affiché. Un ministre extrêmement soucieux également de promouvoir la parité homme-femme. Et si je prends justement les dernières nominations, donc cette année en 2018, d'ambassadeurs, alors il y en a eu 13, donc c'est évidemment à chaque fois on n'a pas tous les ans un nombre incalculable de d'ambassadeurs et d'ambassadrices, mais il y en a 13 et donc il y a 7 femmes pour 6 hommes, ce qui donne en fait pour la première fois 54% de femmes nommées, donc un petit peu plus que les hommes. Et vous savez peut-être que la conférence des ambassadeurs, qu'on appelle traditionnellement conférence des ambassadeurs cette année, s'appelle conférence des ambassadeurs et des ambassadrices, pour bien marquer justement que désormais la parité est affichée et assumée.
Après, c'est peut-être un niveau de responsabilité des pays plus ou moins importants, dans lesquels non, il y a des pays importants dans lesquels des femmes ont été nommées.
Absolument.
Un exemple ?
Alors, un exemple, on a une femme ambassadrice en République fédérale d'Allemagne, c'est pas un petit pays, en Fédération de Russie.
D'accord.
Également, donc non, il y a vraiment des pays très importants.
Je voudrais m'arrêter, il nous reste 3-4 minutes, ça passe très vite ces émissions toujours. Je voudrais m'arrêter un instant sur la personnalité de Margot Wallström, vous la connaissez, ministre des Affaires étrangères.
Pas personnellement.
Suédoise, qui a fait du droit des femmes le fil rouge de son action ministérielle, manifestement. Son ministère vient de publier un manuel de diplomatie féministe. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie féministe, en quelques mots ?
J'avoue que je sais pas très bien, en fait. Moi, je préfère le féminisme qui, comme le thé, qui infuse, en fait, et qui irrigue l'ensemble de la société. S'il y a manuel, c'est qu'il y a peut-être un besoin d'explication. Je préfère les actes concrets, dont ceux que je viens de vous parler. Et on a aussi des directeurs et des directrices extrêmement soucieuses de mettre en œuvre cette politique, dont notre directrice générale de l'administration, elle fait du concret. Elle ne fait pas des manuels.
Alors, je me tourne vers Fatima El-Ouazi, parce que Margot Wallström dit « Les accords de paix ont tendance à échouer quand les femmes ne sont pas autour de la table de négociation. » Est-ce que vous partagez ce jugement ?
Alors, j'avoue que c'est un parti pris. J'avoue que j'aurais pas analyser les accords de paix ou les accords climatiques ou les accords tant qu'ils sont écrits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'on incorpore la dimension des droits des femmes et des enfants dans les décisions qui sont prises au niveau mondial, donc les décisions qui sont prises au Conseil à l'ONU. Je pense que c'est important parce que on a tendance à oublier, mais si on a, il y a un rapport McKinsey qui l'explique très bien, mais si on arrive à une meilleure égalité femmes-hommes, et je pense que c'est par cela qu'elle est dit diplomatie féministe, mais si on arrive à une meilleure égalité femmes-hommes dans toutes les sphères de la société, ça va créer de la richesse économique, ça va sortir des familles de la pauvreté. C'est très important d'avoir cela en tête quand on crée des politiques publiques, quand on pense des accords de paix. Je pense que c'est important de réfléchir aux femmes, puisque c'est elles qui gèrent les portefeuilles économiques, c'est elles qui gèrent le foyer finalement. Et souvent, on a tendance à donner l'argent aux hommes, alors que c'est les femmes qui le gèrent le mieux. Et ça, c'est ce qu'on fait. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la conférence des femmes et des droits sociaux à l'ONU chaque année, qui ça s'appelle la CSW. La CSW, c'est un événement unique au monde chaque année. Des femmes, des associations et des gouvernements se mobilisent justement pour promouvoir cette idée-là.
On en reparlera. On n'a pas le temps d'en dire davantage.
Non,
ce
mais
soir.
Ça.
Merci. Non, il faut absolument partir. Merci à toutes les deux. Agnès Van Der Mulle, Fatima El-Ouazi, merci à Florence Ponce qui a préparé et à Claude Battista qui a réalisé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Un nouveau journal dans quelques secondes sur Radio France Internationale. Bonsoir à tous.